Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, et nous sommes ensemble pour une heure aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, Washington agacé par Emmanuel Macron, deux mercenaires français arrêtés à leur retour d'Ukraine, et le commerce russo-chinois s'effectue à 70% en monnaie nationale. Le ministre russe des Affaires étrangères est en visite à New York pour une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies. Deux analystes africains réagiront aux obstacles rencontrés par la délégation de Moscou et à la possibilité de déplacer le siège de l'ONU dans la perspective d'un monde multipolaire. Les journalistes russes n'ont pas reçu leur visa pour couvrir cette visite du ministre. Le chef de la diplomatie russe et un correspondant de Spoutnik commenteront à notre micro cette regrettable déconvenue. L'Union européenne est à court de sanctions contre la Russie. Un analyste français décryptera les dernières évolutions en Occident à la veille du sommet de l'OTAN prévu en juillet prochain. La Maison-Blanche est en colère contre Emmanuel Macron. Un média américain affirme que le président français se propose d'approcher la Chine avec un plan envisageant des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Cette prise de position n'a pas bien été reçue à Washington, indiqueraient des personnes proches de l'administration Biden. Selon les sources de la publication, il est reproché aux locataires de l'Élysée d'avoir travaillé d'une manière autonome sur une question diplomatique délicate, sans consulter les alliés. Le journal ajoute que la volonté de M. Macron de contribuer aux négociations dans le conflit en Ukraine remet en question la capacité de Kiev à réussir sa contre-offensive. Pire, il reproche au président français de mettre en danger le front uni des alliés. D'autres personnes ont confié à ce média que ce n'était pas la première fois que Macron suggérait un plan pour la paix. Toutefois, ces individus seraient peu convaincus que les Chinois aient la volonté d'utiliser leur influence pour le transmettre auprès du président russe. De plus, ce journal ne mentionne pas le fait que Pékin a proposé à Moscou son propre plan de paix en Ukraine. La Russie a d'ailleurs accueilli favorablement les propositions chinoises. Vladimir Poutine a affirmé qu'elles pouvaient servir de base pour un règlement pacifique du conflit. Pour rappel, la Russie a indiqué à plusieurs reprises qu'elle était prête à négocier, mais que Kiev a interdit toute négociation avec Moscou sur le plan législatif. Deux Français de leur retour d'Ukraine ont été interpellés à la descente d'un car à Paris. Les individus revenus de zones de combat ont été cueillis avec des chargeurs de fusils d'assaut et d'optiques de visée en leur possession. Les enquêteurs ont très rapidement établi que les deux protagonistes n'étaient pas inconnus des services de police. Membres d'une organisation d'extrême droite, ils faisaient l'objet d'une fiche pour atteinte à la sûreté de l'État. L'une de ces personnes avait auparavant servi au sein des chasseurs alpins, mais avait été renvoyée après la révélation de son engagement néo-nazi. Jugés en comparution immédiate, les deux hommes ont été condamnés à 15 mois d'emprisonnement, dont 9 avec sursis. Pour rappel, des mercenaires de différents pays occidentaux se sont engagés du côté de Kiev. Un média français a révélé que 400 ressortissants français sont partis en Ukraine depuis un an. Toutefois, un média américain a affirmé que le contingent de combattants étrangers au sein de l'armée ukrainienne n'attire pas les foules. Il ne serait que 1500 hommes aujourd'hui contre les 20 000 combattants revendiqués par Kiev. Le dollar est de plus en plus marginal dans les échanges entre la Russie et la Chine. Le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, a déclaré que la part du commerce entre Moscou et Pékin en monnaie nationale est de plus de 70%. Le ministre russe a expliqué cette tendance par le caractère dangereux du dollar dans les transactions, mais aussi car le billet vert n'est plus une monnaie de réserve. Monsieur Silouanov a ensuite annoncé que cette réorientation vers des devises locales est une mesure forcée qui continuera tant que les émetteurs de monnaie de réserve classique, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne, poursuivront leur politique anti-russe. Toutefois, le recours au rouble et au yuan présente un avantage. Son usage est plus confortable pour la Russie et pour les exportateurs. Selon le ministre des Finances, la première phase aiguë du changement de l'ordre économique mondial est en cours. Les pays en développement sont en train de bousculer le système établi par les pays industrialisés. Par conséquent, il faut penser à long terme afin d'anticiper les changements à venir, a-t-il ajouté. Pour rappel, le recours aux devises nationales dans les échanges commerciaux a le vent en poupe. Pékin promeut l'utilisation du yuan auprès de ses partenaires afin de concurrencer le dollar. Récemment, l'Inde et le Bangladesh ont décidé de se dédollariser dans le cadre de leurs transactions commerciales bilatérales. « Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé à New York pour présider une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour rappel, la Russie y assure la présidence tournante. Toutefois, les États-Unis se sont fait remarquer en marge de cet événement. Les visas américains ont été délivrés aux membres de la délégation russe à la toute dernière minute. Les journalistes russes ont eu beaucoup moins de chance. L'ambassade des États-Unis a refusé de délivrer le précieux sésame pour couvrir l'événement sur place. Denis Bolotsky, correspondant de Spoutnik, a subi cette mésaventure. À notre micro, il a réagi à cette attitude désagréable de la part de Washington.
Je suis au centre de Moscou, près de l'ambassade des États-Unis, où le groupe de presse du ministre russe des Affaires étrangères aurait dû récupérer ses passeports pour aller à New York à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie préside le Conseil ce mois-ci. Donc c'est un événement important pour la diplomatie russe, aussi bien que pour les médias russes. Il était prévu qu'on le couvre, 10 journalistes du côté russe. Nous avons demandé des visas américains au mois de mars. Il y a plusieurs semaines. Ce samedi, nous étions présents à l'ambassade. Nous avons donné nos passeports à un employé. Nous lui avons demandé quand nous pourrions les récupérer avec un tampon. Il a répondu qu'il n'en avait aucune idée. C'était un moment bizarre et frustrant pour nous. Néanmoins, on s'attendait à ce que tout se fasse dans les temps, comme cela était déjà le cas plusieurs fois. On couvre toujours les réunions de l'Assemblée nationale de l'ONU. Je n'ai aucune idée de pourquoi cela s'est passé. Peut-être que quelques explications seront données plus tard. Le fait est que la délégation du ministre russe des Affaires étrangères est partie. Elle va continuer son travail à New York malgré l'absence de journalistes. Nous attendons plus de réactions des deux bords diplomatiques.
Sergueï Lavrov a commenté juste avant son départ pour New York ce comportement émanant des autorités américaines. Il a promis que la Russie ne l'oubliera pas et ne le pardonnera pas. Précédemment, un porte-parole du ministère a déclaré que les reporters US travaillant en Russie essuieront une attitude similaire à leur égard. Écoutons-le.
Je suis bien sûr conscient que nos collègues américains sont réputés pour ce genre de choses. Mais j'étais persuadé que cette fois-ci, vu l'attention portée sur la laideur de leur comportement, tout serait différent. J'avais toutefois tort. Ce pays qui se dit le plus fort, le plus intelligent, le plus libre, le plus juste, s'est relâché, a fait une bêtise, j'en suis convaincu, et a montré ce que valent vraiment ces déclarations sur la protection de la liberté d'expression, sur l'accès à l'information, etc. Nous devrons alors faire également votre travail et mettre plus d'énergie, déployer plus d'efforts pour montrer la vérité à la communauté internationale. Essayez de suivre ce que nous ferons là-bas et diffuser cette vérité à travers vos canaux. Je suis convaincu que le monde entier s'y intéressera bien plus qu'aux informations filtrées que nos confrères occidentaux diffusent à leurs téléspectateurs, auditeurs et lecteurs. Et le plus important, soyez sûrs que nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas.
Dès son arrivée à l'ONU, Sergueï Lavrov a frappé un grand coup. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le multilatéralisme, le chef de la diplomatie russe a exhorté les États occidentaux à bien se comporter et à respecter les autres pays. Selon le ministre russe, Washington et le reste de l'Occident qui lui obéit utilisent leurs propres règles chaque fois qu'ils ont besoin de justifier des mesures illégitimes prises contre ceux qui conduisent leur politique conformément au droit international en refusant de suivre les intérêts égoïstes du dénommé milliardaire. Pour M. Lavrov, les États occidentaux ne sont pas autorisés à prendre la parole au nom de toute l'humanité. Écoutons tout de suite le ministre russe.
Il est depuis longtemps devenu gênant pour nos collègues occidentaux de négocier au sein des formats universels tels que l'ONU. Pour justifier idéologiquement la politique visant à saper le multilatéralisme, l'expression « unité des démocraties » en opposition à l'autocratie a été introduite. Des clubs d'élite sont créés qui agissent en contournant l'ONU. D'abord, ils discutent de quelque chose en privé dans un cercle restreint, puis ces positions sont présentées comme l'opinion de la communauté internationale. Appelons un chat un chat. Personne n'a autorisé la minorité occidentale à parler au nom de toute l'humanité. Il faut se comporter décemment et respecter tous les membres de la communauté internationale.
Nous venons d'écouter Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Lors d'une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le multilatéralisme, Il a exhorté la minorité occidentale à cesser de parler au nom de toute la communauté internationale. Le chef de la diplomatie russe a également appelé à une accélération de la réforme du Conseil de sécurité en élargissant la représentation en son sein des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Plus tard, en réponse à une question d'une journaliste, Sergueï Lavrov a évoqué d'autres changements à l'ONU. Il s'est félicité de l'idée de transférer le siège de l'organisation dans un autre pays qui n'abuserait pas de sa position. Combien de temps ce comportement scandaleux des États-Unis abusant de leur droit de délivrer ou non des visas va-t-il durer ? Dans quelle mesure le projet de transfert du siège des Nations Unies est-il réaliste ? Et ne devrions-nous pas nous tourner vers les pays africains dans ce cas ? Djibril Guingwe, analyste politique sénégalais, et Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, nous donnent des éléments de réponse. Sergueï Lavrov se trouve pendant quelques jours à New York pour une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les membres de la délégation accompagnant le ministre russe des Affaires étrangères ont montré de sérieux problèmes pour obtenir leur visa. Quant aux journalistes russes, aucun n'a été autorisé à entrer aux États-Unis. Un problème qui a été soulevé à plusieurs reprises au niveau de l'ONU et qui est fréquent pour beaucoup de pays, y compris africains. Monsieur Benoît Ngom, ne pensez-vous pas que Washington abuse de son statut d'État hôte du siège des Nations Unies ?
Je crois qu'il n'y a aucun continent qui est aussi affecté que le continent africain par l'instabilité dans l'octroi du visa. La plupart des Africains qui veulent aller dans certains pays, notamment la partie d'ailleurs qui est peut-être la plus importante, notamment les experts africains, ou des grands hommes d'affaires qui ont des sociétés, etc., qui ont des partenaires dans les pays occidentaux, dans l'état actuel des choses, souvent, notamment les jeunes qui ont créé des start-up et autres, et qui ont des relations avec des partenaires jeunes en Occident. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que eux, autant leurs partenaires peuvent venir en Afrique comme bon lui semble, parce que personne ne lui demande de visa, qu'il soit européen ou américain, mais le jeune euro-africain, lui, ne peut pas aller dans ces pays spontanément. Et si l'octroi de visa dans certains pays peut suivre une certaine logique, on sait que dans beaucoup de pays européens, par exemple, l'octroi du visa ne suit aucune logique. Des fois, des gens pensent avoir rempli toutes les conditions, comme les visas sur la France, et puis tu te retrouves qu'on a recalé ta demande de visa. Bon, donc, ce problème de mobilité intéresse absolument les Africains. Maintenant, quand cette question de mobilité frappe une des grandes puissances, telles que la Russie, qui estime qu'il y a certains de ses fonctionnaires qui auraient dû accéder aux Nations Unies et qui ne peuvent pas obtenir le visa, ou bien d'autres pays d'ailleurs qui ont subi ces sanctions de la part des Américains qui ont refusé de leur accorder des visas. Je pense que c'est des cas beaucoup plus spécifiques que ce que je viens de dire, mais c'est toujours le problème de la limitation de la liberté d'aller et de venir au niveau international. Dans ces deux cas, il faut amener ces pays à respecter la réglementation internationale. Quand il s'agit notamment de ce que j'ai dit par rapport à l'Afrique, mais quand il s'agit aussi du refus de visa à des fonctionnaires russes, il est important que la Russie aussi puisse démontrer que les Américains l'ont fait en violation de la réglementation internationale, ou bien les autres Africains aussi qui le reprochent aux États-Unis. En toute honnêteté, si la Russie et les autres pays peuvent démontrer qu'effectivement les Américains délibérément ont refusé d'accorder des visas et d'une façon unilatérale à des fonctionnaires qui auraient pu accéder au building des Nations Unies, comme le prévoit la convention que les États-Unis ont signée avec les Nations Unies, je pense que ce serait bon aussi que ces pays-là essayent de montrer au niveau international là où il y a la faille et de ne pas se contenter de déclarer que les États-Unis ont fait telle ou telle chose. Dans ce sens de négatif, je pense qu'il est important de les États-Unis, c'est un pays de droit, c'est comme ça que nous on l'a connu. Il y a des voies de recours qui sont possibles. Il y a donc matière à poser ce problème-là au niveau international. Et là, on a affaire à des pays qui ont la capacité de se faire entendre. C'est pas comme ces pays africains qui souffrent, qui subissent cela et qui sont incapables de se faire entendre. Personne ne les écoute. Les gosses-là qui meurent dans les eaux de la Méditerranée et autres parce qu'on a refusé de leur donner des visas. Souvent, ils ont de l'argent pour payer l'hôtel pendant quelques jours ou quoi que ce soit, mais on leur refuse le visa. Et ils prennent ces voies. Donc, je pense que En ce qui concerne le second cas des violations peut-être de conventions internationales par les États-Unis, il serait vraiment bon que les grands pays qui peuvent se faire entendre et qui ont subi cela puissent démontrer que l'arbitraire des États-Unis d'Amérique. Je pense que ce serait intéressant.
Et vous, Monsieur Djibril Gningwe, que pensez-vous de cette position scandaleuse des États-Unis en matière de délivrance des visas?
Oui, en se comportant ainsi, les États-Unis d'Amérique non seulement violent les accords de siège qui existent entre lui et l'Organisation des Nations Unies, mais également ils contreviennent allègrement aux idéaux, aux principes et aux valeurs qui fondent la légitimité et la crédibilité de l'organisation. Au terme des accords de siège qui lient les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies, et notamment des dispositions des sections 11 et 12, les États-Unis n'ont pas le droit de refuser à des membres d'une délégation d'un autre État en provenance, en transit ou à destination du siège, un visa d'entrée. Et ceci, quel que soit par ailleurs l'état de ses relations avec cet État. Par conséquent, il apparaît nettement ainsi que les États-Unis abusent de leur statut de pays hôte du siège des Nations Unies en refusant de livrer les visas aux membres de cette délégation.
Dmitri Polianski, représentant permanent adjoint russe à l'ONU, a rappelé que le siège des Nations Unies pourrait être déplacé des États-Unis vers un autre pays et un autre continent, par exemple l'Asie ou l'Afrique. Cette idée est-elle réalisable?
Oui, je pense que c'est une excellente proposition. Le déplacement du siège des Nations Unies en Afrique, c'est non seulement souhaitable, mais c'est également réalisable, puisque cela correspond à un besoin. Cela correspond à un besoin de multilatéralisme et un besoin de changement dans la gouvernance, non seulement de l'organisation, mais dans la gouvernance mondiale. Faire partir le siège des États-Unis d'Amérique vers l'Afrique permettrait de sortir cette organisation de l'unilatéralisme dans lequel les États-Unis ont tendance, par son influence et par son statut de pays hôte, à confiner l'organisation vers beaucoup plus de multilatéralisme. Donc, l'organisation, en venant vers l'Afrique, gagnerait beaucoup plus en multilatéralisme, c'est-à-dire l'organisation pourrait ainsi se démocratiser davantage et par conséquent avoir une gouvernance beaucoup plus efficace et beaucoup plus équitable. Je pense qu'une telle proposition s'inscrit pleinement dans l'émergence d'un monde multipolaire. L'Organisation des Nations Unies doit pouvoir jouer un rôle positif justement pour accompagner cette reconfiguration de la géopolitique mondiale vers beaucoup plus d'équilibre, vers beaucoup plus d'équité, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de solidarité entre les différentes parties du monde, entre les pays, les nations et les continents des différentes parties du monde.
Et que gagnerait l'Afrique si le siège des Nations Unies était installé?
Je pense que le continent africain gagnerait beaucoup dans l'implantation du siège de l'Organisation des Nations Unies en Afrique, parce que l'Afrique était jusque-là dans une position marginale dans ses relations avec la communauté internationale. Donc cela permettrait très certainement de fixer davantage les regards sur l'Afrique, donc d'inverser progressivement les relations entre l'Afrique et la communauté internationale de façon beaucoup plus favorable à l'Afrique. Cela va reposer le problème du gouvernement de l'Union au sein de l'Union africaine en des termes nouveaux, parce que justement, vous savez, dans la période de l'unité africaine de l'OUA, la priorité c'était la décolonisation, l'indépendance des pays et, disons, la souveraineté. Et après, à la fin de la décolonisation, c'est-à-dire en 2002, l'unité africaine est devenue l'Union africaine. Il y a eu un changement de paradigme. Et à partir de ce moment, la priorité était devenue la sécurité, la paix et le développement. Mais il se trouve que depuis 2002, l'unité africaine peine justement à atteindre ces objectifs-là. Parce que, par défaut, non seulement en son sein, il y a des raisons internes, le déficit d'organisation, le déficit de volonté politique, mais il y a des raisons externes, notamment un déficit de solidarité de la communauté internationale, notamment des Nations Unies également. Je pense que toutes choses qui pourront être rectifiées, redressées, améliorées avec le transfert du siège des Nations Unies en Afrique.
De nombreux pays africains connaissent des problèmes de sécurité et d'infrastructure, ce qui constitue un obstacle majeur à une telle initiative. Mais peut-être s'agirait-il d'un facteur supplémentaire qui contribuerait à résoudre ces problèmes selon vous?
Je pense que le transfert du siège de l'Organisation des Nations Unies en Afrique, comme je le disais tout à l'heure, va accélérer la mise en place de certaines structures au niveau de l'Union africaine, notamment le gouvernement de l'Union, qui a été débattu pendant longtemps, mais qui reste toujours à mettre en place parce qu'il y a un certain nombre de différences de points de vue sur le format, sur l'agenda, etc., etc. Je pense que ceci accélérerait la mise en place d'un tel organe supranational. Et la mise en place d'un tel organe supranational permettrait déjà à l'Afrique, par ses ressources propres et de façon interne, de faire face positivement et favorablement à ce déficit d'infrastructure, à ce déficit de paix et de sécurité. Mais aussi sur le plan externe, le fait que pendant un mois chaque année, toutes les délégations du monde, tous les chefs d'État et de gouvernement séjournent en Afrique, cela peut avoir des retombées économiques extrêmement importantes en Afrique et cela peut amener également la communauté internationale à davantage coopérer avec l'Afrique, appuyer l'Afrique dans les questions de paix et d'infrastructure. Je pense que donc l'un dans l'autre, c'est une proposition extrêmement positive qui permettra d'inverser favorablement cette situation de déficit d'infrastructure et de paix en Afrique.
Et quel pays africain serait convenable pour l'installation du siège de l'ONU ?
Je pense que le Sénégal serait tout à fait désigné, indiqué, parce que lorsqu'il y a eu en 2010 la crise en Côte d'Ivoire, toutes les organisations des Nations Unies, pour l'essentiel, ont été transférées à Dakar. Par conséquent, cela montre que le Sénégal est en très bonne position pour accueillir un tel siège. Je pense qu'il y a le Nigeria, par exemple, il y a l'Afrique du Sud qui peuvent aussi accueillir un tel siège. Hein. Il peut y avoir plusieurs pays, n'est-ce pas, qui peuvent l'accueillir. Le Botswana, par exemple, le Botswana est un exemple, c'est un petit pays, mais c'est un exemple de pays assez stable, de modèle démocratique réussi, de modèle économique réussi, etc. Le Ghana également, pourquoi pas.
Monsieur Ngom, vous êtes également optimiste à ce sujet. Cette proposition de déplacer le siège de l'ONU en Afrique est-elle réaliste et réalisable?
Oui, je pense que c'est une proposition très généreuse, très flatteuse pour l'Afrique, mais qui est aussi étouffante. L'Afrique, dans l'état actuel des choses, ne peut absolument pas accueillir le siège des Nations Unies. Les Nations Unies, quand on voit ce que ça représente sur le plan de l'accueil, sur le plan de l'organisation de la sécurité, sur le plan des infrastructures, le fait de devoir recevoir régulièrement des centaines, des milliers de fonctionnaires, des dizaines de chefs d'État, l'Afrique n'a pas cette capacité-là. Il faut être réaliste. C'est des pays qui aujourd'hui, en grande partie, vivent certaines instabilités, comment dirais-je, institutionnelles. Des pays qui, d'un moment à l'autre, sont traversés par des troubles qui peuvent remettre en question l'existence de sièges. Je crois que l'Afrique vit une certaine instabilité que l'on voit partout, le djihadisme dans pas mal de pays, etc. Qui font que je pense que aujourd'hui le problème de l'Afrique, c'est d'être aidé à se structurer, à renforcer son potentiel économique, à renforcer ses infrastructures. Bon, ce qui est en train d'être fait entre l'Afrique et certains pays, et je crois que c'est dans ce sens-là que, la Russie et d'autres pays peuvent apporter une grande contribution en aidant l'Afrique à sécuriser ce qu'il a, à sécuriser ses frontières, à sécuriser le peu de moyens qu'il a, et aussi à renforcer ses processus démocratiques dans les différents pays. Je crois que l'Afrique, c'est à ce niveau qu'il est, mais l'Afrique ne peut pas accueillir une telle proposition, quelque généreuse qu'elle soit, mais qui, quelque part, participe aussi du grand combat, je dirais, intellectuel et idéologique entre la Russie et les États-Unis. Voilà, je pense que l'Afrique doit être soutenue ailleurs, dans le sens de ce que fait la Russie avec certains pays, c'est-à-dire il y a des pays qui ont besoin du soutien de la Russie pour assurer la paix chez eux. Et voilà, si tel est leur choix, il vaut mieux se concentrer sur ça qu'autre chose.
Pourtant, à supposer qu'un tel déplacement du siège se concrétise un jour, peut-être pas en Afrique, mais en Asie ou en Amérique latine, en quoi cela changerait-il la situation dans le monde ?
Oui, c'est une bonne question de penser que si on déplaçait le siège Mais là, le problème des relations internationales n'est pas lié au fait que le siège est aux États-Unis ou ailleurs. Parce que globalement, tous ceux qui veulent aller aux États-Unis, qui sont des fonctionnaires, ils y vont. Tous les présidents y vont, font les mêmes déclarations depuis 70 ans, ça ne change pas. L'ordre des choses, hein. Je dis 70 ans, c'est comme ça. Bon, je veux dire, depuis plusieurs années, des décennies. Non, ce qui est fondamental, c'est le changement de la gouvernance internationale. Changer la gouvernance internationale, c'est de savoir qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand on distribuait les responsabilités entre 5 pays composant le Conseil de sécurité, beaucoup d'autres pays n'étaient pas indépendants ou étaient dans d'autres situations qui ne leur permettaient pas d'exprimer leur souveraineté. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est normal que l'Afrique, qui est tout un continent, qui dans quelques années va être peuplé d'un milliard d'habitants ou quelque chose du genre. On dit que dans les décennies à venir, ce sera bon, le continent qui aura plus d'habitants globalement, comme l'Inde ou avant l'Inde et la Chine, etc., qui sont des pays continents. Donc, est-ce que l'Afrique peut être en marge des responsabilités qui sont octroyées aux 5 membres du Conseil de sécurité? Ça, c'est un grand débat. Qui intéresse davantage les Africains que de savoir si le siège, on l'amène ici ou là. Si on prend le siège qui quitte les États-Unis, bon, je sais pas, alors que cela avait été discuté, bon, je crois que c'est pas vraiment le problème. Où on va l'amener? Déjà, on n'arrive même pas à avancer sur le fait que on peut passer de 5 à 7 ou 8 membres du Conseil de sécurité. Ça fait des années qu'on ne peut pas réformer, à plus forte raison que si vous vouliez changer le siège. Là on parle d'autres paramètres. Je pense que c'est pas vraiment ça. Essayons de faire de telle sorte que cette gouvernance internationale soit une gouvernance juste, équitable, qui fait que au fil des années, les décisions des Nations Unies soient reconnues comme des décisions légitimes juridiquement, parce que fondée sur une légalité juste, voilà. Et non, cette légalité qui est là, qui est une légalité injuste, bon, effectivement, c'est la charte qui a dit telle et telle chose, mais bon, les résultats sont là. Il y a une contestation internationale de ce système, et qui est très dangereux par rapport à la coopération internationale, parce que beaucoup ne pensent que les Nations Unies ne les représentent pas.
La visite du ministre russe des Affaires étrangères à New York a coïncidé avec la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix, proclamée par l'ONU et célébrée le 24 avril. Malheureusement, les efforts de maintien de la paix de l'ONU en Afrique n'ont pas toujours été efficaces. L'Afrique ne devrait-elle pas développer ses propres mécanismes de résolution pacifique des conflits et renforcer sa propre diplomatie au service de la paix?
Oui, en réalité, il y a, on peut dire, une diplomatie africaine qui normalement devrait favoriser l'instauration de la paix entre les États, entre les peuples. Et c'est fondé sur les principes de la souveraineté, de l'égalité souveraine des États, de la non-intangibilité, de l'intangibilité des frontières, idée de la colonisation. Depuis l'accession à l'indépendance, ceci a permis à l'Afrique d'équilibrer les frontières. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi. La diplomatie seulement ne suffit pas. C'est que bon, au fil des années, la pauvreté aidant, vous avez les zones frontalières en Afrique qui sont complètement larguées par les capitales. C'est des zones pauvres, complètement pauvres en général, donc poreuses aux influences les plus rétrogrades, ce qui est à l'origine de ces djihadismes-là. La plupart de ces jeunes qui sont mobilisés dessus sont des gens qui, en fait, sont des jeunes qui sont très pauvres, qui cherchent un peu d'argent pour aider leur famille. Donc ça a été la contestation, la remise en question de cette sorte de stabilité qu'on pouvait voir entre les pays africains pendant longtemps. Il y avait des coups d'État à l'intérieur, mais entre les pays, non. Mais maintenant, vous avez vu la déstabilisation dans toute la zone sahélienne. C'est transfrontalière. Donc ça, c'est une réalité. Les Africains, maintenant, par rapport à tout cela, naturellement, ont créé des mécanismes au niveau de l'OEA, comme au niveau des organisations sous-régionales, ont essayé de créer des mécanismes de sauvegarde de la paix, mais aussi de prévention des conflits. Il y a effectivement des structures de ce genre. Ils sont allés même plus loin, comme à la CEDEAO, quand ils avaient créé l'ECOMOC, qui était une structure militaire. pour intervenir dans cette guerre civile qu'il y a eu au Libéria, en Sierra Leone. Donc, il y a eu cette volonté de faire au niveau des États, à l'intérieur des États, au niveau de la démocratie aussi. Bon, vous avez vu ce que les États de la CEDEAO ont essayé en sanctionnant les pays qui ont fait un coup d'État, dans lequel il y a eu un coup d'État. Quelles conséquences tout ceci a eu sur l'instauration d'une paix durable en Afrique? Les résultats ont été très mitigés ou très relatifs. Maintenant, quelle a été la contribution? Est-ce que les Nations Unies et autres dans le multilatéralisme, en envoyant des soldats, etc., dans les différents pays, ont pu changer la donne? Moi, j'ai pas vu personnellement un pays africain où les Nations Unies ont envoyé ces soldats-là. Le cas le plus typique est celui de la RDC. Je sais pas depuis combien de temps ils sont là-bas. Ils dépensent des milliards et des milliards qui, isolés, investis dans le développement, par exemple, des zones frontalières de la RDC ou dans d'autres régions, auraient pu permettre d'enrichir un peu la population et d'éviter qu'elle soit à la merci des djihadistes, de petits contestataires qui ne leur promettent que des illusions avec de petites sommes d'argent qu'ils leur donnent. Donc, pour revenir à la situation de l'Afrique, elle est ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire les mécanismes internes n'ont pas totalement fonctionné. Au niveau international aussi, le multilatéralisme, en dehors de beaucoup de déclarations d'intention, on l'a vu, le retrait de la France, l'Union européenne qui dit qu'elle intervient, mais bon, vous entendez tous les jours le nombre de morts au Burkina Faso, des militaires pieds, voilà, etc. Parce que c'est pas très clair. Donc, c'est toujours, pour moi j'ai toujours dit ma position est de permettre aux Africains, effectivement, de voir chacun selon les pays, de voir quels sont les partenariats, je dirais économiques, les partenariats militaires qui correspondent à leurs besoins et qu'on les laisse aller dans ce sens-là. C'est ça, je pense que ça peut sauver le continent. Au lieu de bousculer souvent les dirigeants dans des sens tout à fait contradictoires en fonction de considérations idéologiques. Les sanctions, si elles ne sont pas ciblées, si elles participent simplement d'une volonté de réprimer un système politique, je pense que souvent elles sont improductives et elles sont, à mon avis, elles ne contribuent pas à l'instauration de la paix dans le monde. Quand on voit des gens, vous voyez, dans un pays où il y avait des problèmes graves, de violation des droits de l'homme, que la CEDEAO, par exemple, n'a pas pu résoudre, des gens, des militaires se lèvent. À un moment donné, estime que cette population-là qui est désarmée et qui est écrasée par des supplétifs armés, que cette situation doit finir. Ces gens prennent le pouvoir. Vous leur dites que non, vous n'avez pas le droit de prendre le pouvoir. On va fermer vos frontières, on va bloquer les transactions et autres. Mais ce n'est pas aider le pays.
C'était Djibril Guiningwe, analyste politique sénégalais, et Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine. Ils ont réagi aux problèmes de visa posés par les États-Unis aux diplomates et journalistes russes. Les experts se sont également penchés sur le déménagement du siège de l'ONU pour mettre fin au monde unipolaire. Chers auditeurs de Maliba FM, Spoutnik Afrique marque une courte pause. À tout de suite sur Maliba FM. De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Spoutnik Afrique et son émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. L'Union Européenne est à court de sanctions anti-russes. Un média américain a affirmé que Bruxelles avait atteint ses limites dans la lutte économique contre Moscou et qu'il était plus rationnel de ne pas introduire de nouvelles restrictions. À l'Est, le soutien inconditionnel à l'Ukraine commence à peser. La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont introduit des interdictions d'importation de blé ukrainien. Et pour cause, les agriculteurs jugent ce flux de matières premières comme une concurrence déloyale et qui a pour effet de faire baisser les cours sur les marchés. Et ce mouvement pourrait s'étendre. La Roumanie et la Bulgarie envisagent d'emboîter le pas. À Kiev, malgré une armée ukrainienne dans une situation critique à Artemiovsk, Volodymyr Zelensky est déjà tourné vers Vilnius. Le président ukrainien a été invité au prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra en juillet prochain dans la capitale lituanienne. Il est convaincu que plus aucun obstacle fait face à la candidature de son pays pour rentrer dans l'Alliance Atlantique. Toutefois, des dirigeants occidentaux ont émis des doutes sur ce cas ukrainien et ne partagent pas le même enthousiasme du président ukrainien. Au micro de Spoutnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler décortique les derniers événements en cours en Occident. Écoutons-le.
Alors, je vais démarrer par l'Union européenne. Selon un média, elle n'aurait plus de marge de manœuvre pour adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Et on a Josep Borrell qui a déclaré que les pays membres ne sont pas disposés à trouver un nouvel accord pour un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. La question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi Bruxelles refuse toujours de reconnaître qu'elle n'a pas atteint ses objectifs à travers ces sanctions ?
Alors, déjà, le dernier paquet de sanctions qui date de février, le 10e paquet de sanctions, 10 quand même, c'est pas mal en un an, il avait été très difficile à adopter puisque chaque pays, puisque c'est des sanctions qui doivent être adoptées au niveau de l'Union européenne à l'unanimité, chaque pays marchandait, entre guillemets, ses conditions. Donc, ce qui, d'une part, rendait les choses lentes et laborieuses et avait des conséquences financières également, puisque les conditions, c'est toujours des compensations, entre guillemets, financières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Europe n'avait pas compris en 2014, quand il y avait eu les premières volées de sanctions, qu'en réalité, le seul qui s'affaiblissait, c'était l'Europe. Celui qui se renforçait le plus ou qui réapprenait le plus à se renforcer, c'était la Russie. Et ceux qui en profitaient le plus, c'était ceux qui continuaient à traiter avec la Russie, dont les Américains, puisque les Américains continuaient à avoir un business qui l'encourageait fortement, les Européens à plus avoir. Et donc l'Europe, en fait, n'est jamais capable de reconnaître ses erreurs. Au contraire, elle poursuit en avant parce que, en fait, les erreurs dirigeants européens, ce ne sont pas des erreurs vis-à-vis des gens qui les ont commandités. C'est-à-dire que les cabinets de conseil stratégique qui sont de lobbying, etc., qui sont derrière ces erreurs, ne travaillent pas pour l'Europe. Ils travaillent pour les États-Unis le plus souvent. Donc, ils ne peuvent pas reconnaître que c'est une erreur, puisque le chaos en Europe, la destruction de l'Europe, donc c'est jusqu'à la guerre, entre guillemets, jusqu'au dernier Ukrainien et jusqu'au dernier Européen qui n'est pas à genoux à supplier pour son gaz en hiver, pour avoir chaud, pour son électricité, pour avoir de la lumière et bientôt pour la nourriture. Mais encore une fois, par rapport à la question, je vais être très clair, ils ne peuvent pas dire qu'ils se sont trompés parce qu'en fait, tout ce qu'ils font fait partie d'un plan qui est de créer un chaos total en Europe et de rendre les choses les plus tendues et les plus conflictuelles au sein des États. Et on voit très bien ce qui se passe en France où je vis. C'est vraiment une situation, c'est volcanique. Et ça va être la même chose dans de plus en plus nombreux pays européens. Et on voit que la croissance redémarre fort en Russie et que les liens de la Russie avec une part croissante du monde et une part très majoritaire de l'humanité sont forts. Donc effectivement, si on prend ça d'un point de vue européen, c'est de graves échecs. Si on prend ça d'un point de vue de ceux qui veulent créer le chaos en Europe, c'est un immense succès. L'Europe est complètement exsangue. Elle est exsangue dans tous les domaines. Et il suffira d'un rien pour que la chute soit totale. Hein. Dans le domaine monétaire, alimentaire, énergétique, social, éducatif, politique, enfin, c'est délirant. Pourtant, quand on voit les déclarations du ministre de l'Éducation française qui explique que les profs pourront se remplacer les uns des autres, alors le prof d'anglais remplacera le prof de maths mais pour faire des cours d'anglais, mais que comme en fait, ils sont tous à peu près absents de la même manière, à la fin de l'année, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais ça, c'était des sketchs de comiques. C'est-à-dire que non seulement ça ne fonctionne pas, mais on n'a plus aucun rapport à rien, en fait. On essaie de faire des économies sur les sujets les plus importants, l'éducation et la santé, et pour tout focaliser sur la guerre et le confort de nos élites. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, ils ne peuvent pas reconnaître parce qu'en fait, ils font exactement ce qu'on leur demande de faire et c'est un succès. Chaos de l'Europe.
Je vais passer à la suite, donc on va maintenant se projeter. On a des informations sur une éventuelle interdiction totale des exportations vers la Russie qui serait, selon toute vraisemblance, au menu des discussions lors du prochain sommet du G7 prévu au mois de mai. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette potentielle restriction. Est-elle réalisable ? Sachant qu'entre-temps, on a le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, qui a déclaré que si cette mesure était mise en place, eh bien, la Russie achèterait ses marchandises via des pays amis. Donc, selon vous, est-elle réalisable, cette mesure ?
Alors, petit 1, c'est concrètement assez irréalisable. Les Américains le savent parce qu'ils ont tenté la prohibition et en fait, ils ont surtout enrichi les mafias et ceux qui corrompaient les mafias. Donc, c'est exactement ce qui se passe, en fait. C'est, si vous avez besoin de trouver quelque chose, la monnaie russe n'est pas faible, la balance commerciale russe est très positive, donc la Russie peut acheter absolument ce qu'elle veut. Assez facilement, elle a des voisins relativement conciliants, très proches comme la Géorgie, un peu plus loin comme la Turquie, le Kazakhstan aussi commerce, et évidemment la Chine, l'Inde, les pays d'Afrique en général, l'Iran, on voit. Donc elle est tout sauf isolée d'un point de vue commercial, et l'ensemble des pays que je viens de citer produisent absolument tout ce que la Russie ne produit pas et dont elle pourrait avoir besoin éventuellement un peu plus cher. Le seul moyen qui existe pour empêcher les pays en question de commercer avec la Russie, c'était ce qui a été un peu fait et qui a apeuré beaucoup de pays, c'était de dire bah, si vous donnez de quoi permettre de construire des matériaux militaires à la Russie, vous aurez des sanctions graves. Et la sanction grave, c'est toujours la même. C'est la privation du SWIFT, c'est la privation de commercer en dollars, etc. Puisque ça reste une arme très très forte aujourd'hui, même si le dollar est attaqué de toutes parts. Peu de pays ont cette capacité de résilience qu'a montré la Russie depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc il y a beaucoup de pays, et j'ai cité la Turquie, j'ai cité la Géorgie, etc., qui commercent aujourd'hui très largement avec la Russie sur les pièces automobiles, sur même les marques de sport américaines ou autres, les marques de luxe, et qui pourraient hésiter, d'une part parce que ce sont des petits pays, on a vu avec la Géorgie, la vitesse à laquelle des révolutions de couleurs peuvent démarrer, et pour la Turquie qui est dans l'OTAN, qui a un chef de l'État qui avait failli succomber au coup d'État il y a quelques années.
En 2016, tout à fait.
Ouais, ils savent tous qu'il faut se méfier quand on a un ami qui est capable d'être aussi vite le pire ennemi. Donc tout ça pour dire, je pense que la Russie trouvera toujours des solutions, soit en elle-même, soit avec ses partenaires. Je pense que si la Chine, pendant un temps, a voulu, en tant que possible médiateur, éviter d'être partie prenante en allant contre de façon frontale tout ce que proposaient l'Union européenne et les États-Unis, je pense que ce temps va changer. Je pense que les Chinois se rendent compte, comme les Russes l'ont fait avant, qu'il n'y a vraiment aucune fiabilité du côté occidental. D'ailleurs, on sent qu'il y a une forme d'exaspération quand on voit même la manière avec laquelle les diplomates chinois sont interviewés par les journalistes français qui essayent de trouver dans le passé de la Chine des choses qui devraient faire honte à la Chine et lui donner envie de s'excuser en permanence d'avoir aujourd'hui un pays qui est croissant, qui essaie de s'occuper de son peuple.
Tout à fait. On n'évoquera pas la polémique naissante avec l'ambassadeur chinois qui a donné une interview pour une chaîne française que je ne citerai pas et il va être convoqué au ministère des Affaires étrangères justement français pour s'exprimer par rapport à sa position sur la Crimée. Tout à fait. On vient encore. Oui.
Oui, je suis dit, oui, ça sert à rien de faire de la pub à ce Big Brother de l'Occident qui décide en permanence ce qui est bien, juste à dire, justifié, justifiable. Enfin, c'est surréaliste. C'est très inquiétant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'après avoir vécu des années de mensonges qui sont démasqués un par un, eh ben, ils doublent la mise sur les mensonges. Incroyable. C'est sans cesse doubler la mise. C'est la fuite en avant vers Big Brother. Et c'est vraiment inquiétant pour les générations qui viennent.
Et justement, dans le camp occidental, on assiste à une sorte de petite révolte. On a la Pologne, on a la Hongrie, on a la Slovaquie qui ont interdit l'importation de céréales ukrainiennes et la Roumanie et la Bulgarie envisagent d'emboîter le pas. Dans le même temps, on a la Commission européenne qui a proposé un paquet d'aide de 156 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par ce surplus d'importation. Et donc, selon vous, comment peut-on interpréter cette fronde ?
Alors déjà, il faut savoir, juste pour rappeler, que l'Ukraine, historiquement et constitutionnellement, les terres de l'Ukraine ne pouvaient pas appartenir à des entreprises étrangères ou à des étrangers. En fait, il y avait des règles assez strictes, en fait, comme dans beaucoup de pays du monde, sur qui a le droit de posséder des terres. Et après mesdames, et surtout après l'arrivée de Zelensky au pouvoir, puisque la constitution n'avait pas été modifiée, eh ben, les terres ont pu être vendues et il y a eu un braconnage énorme de tous les grands groupes internationaux pour acheter massivement les terres agricoles en Ukraine. Donc, il faut déjà avoir en tête que l'essentiel des terres agricoles en Ukraine n'appartiennent plus aux Ukrainiens. Donc, les productions céréalières, etc., intéressent en premier plan les grands conglomérats mondiaux, les grands fonds d'investissement mondiaux. Donc, quand il y a une discussion sur où vont les récoltes ukrainiennes, c'est pas un petit paysan comme on imaginerait ukrainien pauvre et malheureux qui discute. Ce sont des grands groupes, donc ils sont hyper influents au niveau de Commission européenne. Alors, comme la sortie entre guillemets par bateau est un peu plus compliquée à cause de la mer Noire qui est pas forcément une zone très calme depuis quelques mois. Eh ben, énormément de cette production part à travers des pays voisins de l'Ukraine. Donc, Hongrie, Slovaquie, Roumanie, que j'ai cité, Bulgarie et Pologne. Et énormément vers la Pologne. Et évidemment, ça fait des stocks énormes et ça a des conséquences sur les prix. Donc, les agriculteurs de ces pays se fâchent. Donc, l'Europe, comme d'habitude, quand un mouvement important se fâche, elle donne de l'argent pour calmer les choses, sauf qu'ils ont découvert, c'est que les récoltes, elles utilisent des pesticides qui sont interdits dans toute l'Union européenne, qui sont dangereux pour l'homme, que l'essentiel des cultures qui sont faites en Ukraine sont des cultures OGM qui sont interdites dans l'Union européenne. Et donc ça, évidemment, les médias n'en parlent pas trop, mais c'est le grand scandale. C'est-à-dire qu'en réalité, par Ukraine interposée, on est en train d'être inondé de céréales qui utilisent des produits qui sont extrêmement, sur lesquels il y a vraiment des soupçons pour la santé humaine qui sont élevés, qui arrivent à des prix faibles, mais qui créeront un précédent pour toute l'agriculture de l'Union européenne. Et à nouveau, ce qui est stupéfiant, c'est que la France ne défend pas son agriculture, ne défend pas la nécessité d'avoir vraiment un respect de la nature, de l'environnement, en utilisant moins de tous ces produits chimiques qui ne peuvent être que néfastes aux nappes phréatiques, etc., puisqu'on parle de problèmes de l'eau. Donc on voit que c'est uniquement une affaire d'argent. Et les médias oublient de parler des gros problèmes. C'est pas juste une concurrence entre guillemets déloyale entre l'agriculture, donc qui appartient à des géants essentiellement américains, ukrainiens, face aux petits agriculteurs européens. C'est véritablement une bataille entre plus de pesticides, plus d'OGM, contre la volonté de préserver une certaine idée de la bonne bouffe au sein de l'Union européenne. Donc, je dis, c'est pan par pan, par Ukraine interposée, tout disparaît. C'est-à-dire que cette guerre en Ukraine a permis de censurer des médias. Et cette guerre en Ukraine est en train de permettre de faire s'effondrer, entre guillemets, les derniers pans de protection de notre agriculture et du refus des OGM et de certains pesticides dangereux. Et je trouve ça extrêmement grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que toute cette, entre guillemets, nourriture pas forcément bonne pour l'homme, les pays occidentaux se la destinent à eux, mais également aux pays africains. Et en essayant d'empêcher les exportations russes vers les pays en question qui respectent les normes d'une nourriture pas dangereuse pour les personnes.
Oui, ce que je voulais dire. Tout à fait, justement, pour rebondir pour nos auditeurs africains, la Russie, à plusieurs reprises, avait alerté que l'Occident s'approprier une grande partie, pour ne pas dire la majorité, des exportations de nourriture à travers l'accord céréalier et que les pays africains n'avaient qu'une petite part. Moi, j'ai vu pour...
En fait, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, ils récupèrent l'essentiel de la bonne qualité russe pour l'Europe, alors qu'elle était destinée à l'Afrique, et ce qui était destiné à l'Europe qui venait d'Ukraine et qui, comme je l'ai souligné, n'est pas de bonne qualité, et envoyé vers l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un espèce de jeu de chaise musicale qui est effrayant pour l'Afrique et montre tout le cynisme dont on fait preuve et qui, moi, me fait beaucoup de peine, parce que je suis européen, parce que j'aime la France, j'aime l'idée d'être un pays de lumière, et je ne supporte pas ces espèces de coups vicieux qui sont faits en permanence.
Et justement, la Russie a évoqué la possibilité de sortir de cet accord céréalier, notamment si les sanctions sur l'interdiction totale des exportations vers la Russie étaient décidées par les pays occidentaux membres du G7. Et la Russie, justement, pour les pays africains, avait pris la décision d'offrir à titre gracieux les céréales qui sont des...
C'est qui leur manque, hein.
Voilà, tout à fait. Et on a eu une bonne nouvelle récemment, c'est là aussi un point de friction, c'est que la majorité des engrais russes étaient bloqués dans les ports européens. Là, récemment, on a la Lettonie qui a libéré, après plus d'un an, un stock d'engrais qui était bloqué dans son port à destination d'un pays africain. Donc,
Oui, c'est parce que là, vous insistez sur un point qui est essentiel, ce sont les engrais. S'il y a eu une famine, il y a un peu plus d'un an, terrible au Sri Lanka, c'était uniquement pour un problème d'engrais, c'est-à-dire l'incapacité qu'avait le pays à se fournir en engrais. Et juste un autre point, parce que c'est quand même une attaque qui est incroyable, c'est l'attaque en ce moment très forte contre le riz, contre la production mondiale de riz. C'est-à-dire que dans ces derniers projets, Bill Gates, l'ONU, etc., dit que le riz, en fait, serait responsable de 10% des émissions de CO2, gaz à effet de serre, etc. Et donc, en fait, ils sont en train de dire à tous les pays d'Asie, eh ben, on va essayer de trouver le moyen de vous empêcher de vous nourrir de riz. Enfin, ils veulent vraiment créer la famine. Je sais que pour les auditeurs qui m'écoutent, ils peuvent se dire « Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? On va plus avoir à manger, il y a le chaos en Europe. » Bah oui, je suis en train de dire que la prochaine étape, si on écoute tout ce qu'ils veulent faire et tout ce qu'ils disent, c'est de créer la famine partout, le chaos partout. Et les Russes ne sont pas dupes de ça. C'est pour ça qu'ils essayent d'accepter... pratiquement des conditions inacceptables pour continuer à fournir en nourriture le monde, parce que ça pourrait être l'horreur extrêmement rapidement.
Et puis aussi, il faut ajouter aussi que la Russie, elle peut se le permettre, puisque l'année dernière, elle a enregistré des récoltes records dans le domaine, en ce qui concerne le blé, elle a dépassé largement les records qui avait été établi lors de la période soviétique, pour vraiment montrer le caractère, enfin vraiment montrer comment l'agriculture russe s'est développée ces dernières années.
Depuis 2014,
tout à
en
fait.
Réalité,
tout
l'agriculture
à fait.
Russe, moi j'ai eu la chance d'aller à Moscou sur plusieurs années d'affilée, et j'étais impressionné par dans tous les domaines, pour ce qui est du pain, pour ce qui est des élevages de vaches, de porcs, le lait, le beurre, enfin toute l'agriculture, en fait tout l'alimentaire qu'on trouve, de plus en plus, en fait il y a des marques locales qui sont créées. Mais ce qui m'avait encore plus impressionné à Moscou, c'est le nombre d'occidentaux, de boulangers français, de restaurateurs, de gens qui sont venus s'installer en Russie, qui sont très heureux et qui apportent leur savoir-faire et qui trouvent des interlocuteurs pour fabriquer la farine selon les normes qu'ils avaient, vous savez, pour broyer le blé, etc.
Tout à fait. Je vais même donner une anecdote pour nos interlocuteurs qui nous écoutent. Moi-même, en tant que Français, je suis un grand amateur de fromage. Et ces dernières années, la qualité des fromages fabriqués localement en Russie, elle a atteint aujourd'hui une telle qualité, moi j'ai vu cette progression à travers ces dernières années, elle a atteint une qualité qui est maintenant comparable, voire même supérieure au fromage importé que l'on pouvait acheter auparavant.
Ouais.
Et c'est ça qui est impressionnant.
Et à des prix, mais qui sont surréalistes pour un Européen, c'est-à-dire c'est à se demander comment, avec toutes les sanctions, vous allez dans une petite supérette de quartier à Moscou, d'abord vous trouvez tout.
Bien sûr.
Et vous faites vos courses pour deux fois moins cher que dans un hypermarché. Donc si pour les Français qui écouteraient, c'est vraiment important. Et pas pour encourager les gens à aller en Russie, même si c'est sans doute une bonne idée. Mais c'est juste pour dire qu'il y a un pays qui s'occupe du bien-être de tous ses citoyens. Il y a un pays qui essaye d'avoir des discussions saines, mais même pas dans l'intérêt de la Russie, puisque les Russes effacent des dettes tous les ans. Donc c'est même pas, ils ont même pas envie de prendre de l'argent aux pays africains pour le blé qu'ils leur donnent. Ils ont juste envie d'éviter que des pays sombrent dans la famine. Alors que par calcul politique, nous, on fait ça. Et si vous vous rappelez, l'hiver dernier, c'était « Oh, mais si vous êtes obligé de prendre des douches froides, si vos factures augmentent, si l'inflation augmente, c'est la faute des Russes. » Mais ils diront quoi? Si la famine fait rage en Afrique, c'est la faute des Russes. Alors qu'aujourd'hui, on voit que les Russes font tout pour empêcher ça et que l'Occident fait tout pour que ça arrive. Il faut vraiment le dire et le répéter haut et fort. Ce qui se trame en ce moment dans le domaine agricole aura des conséquences cataclysmiques dans quelques mois.
Je vais passer à un autre thème qui pourrait être cataclysmique, c'est le sujet de l'OTAN. Récemment, on a Volodymyr Zelensky qui a indiqué qu'aucun obstacle, je cite le président ukrainien, fait face à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et lui, si vous voulez, il s'attend à des mesures concrètes lors du prochain sommet de Vilnius, où il a par ailleurs été invité. Toutefois, à plusieurs reprises, on a les dirigeants occidentaux qui n'ont pas montré le même enthousiasme. Fin décembre 2022, je rappelle pour nos auditeurs, Emmanuel Macron avait jugé cette éventualité de « pas vraisemblable ». Alors pourquoi dans ces conditions Kiev s'obstine à suivre cette ligne et que peut-on attendre du prochain sommet de l'OTAN?
Bon, alors déjà le prochain sommet de l'OTAN c'est en juillet, donc ça va véritablement arriver vite. Alors il faut savoir que pour l'instant il n'y a pas d'agenda pour ce sommet de l'OTAN, c'est-à-dire qu'ils n'annoncent même pas qu'ils vont valider les candidatures de la Suède. Enfin, ils vont entériner, entre guillemets, que la Suède et la Finlande font maintenant partie de l'OTAN. Et il y a des processus quand même qui sont dans tous les pays, y compris en Ukraine, des processus législatifs qui doivent avoir lieu pour que le peuple décide de rejoindre l'OTAN, puisqu'en fait, quand vous rejoignez l'OTAN, vous enlevez de fait le commandement de votre armée, c'est devient un commandement centralisé de l'OTAN. Alors ce qui est dit aujourd'hui, mais c'est ce qui a été commencé dès 2014, c'est que le souhait c'est d'intégrer complètement l'armée ukrainienne à l'intérieur de l'OTAN, donc de fait c'est d'en faire un pays de l'OTAN, mais à tel point qu'en fait ils annoncent qu'ils veulent complètement supprimer toute référence aux anciens matériaux de l'époque soviétique, donc anciens chars, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, mais qui a commencé en 2014. Moi, ce que je crois en réalité, c'est que ce qui va être fait, c'est faire en sorte que tous les pays de l'OTAN continuent à s'engager, à abreuver, à inonder de toutes les armes possibles et imaginables, les munitions possibles et imaginables, l'Ukraine, tant qu'il y a des soldats ukrainiens et des mercenaires qui sont vivants sur les lignes de front. Et c'est horrible parce qu'en réalité, personne ne s'intéresse au peuple ukrainien, personne ne s'intéresse à l'intérêt du peuple ukrainien. C'est purement une guerre de l'Occident contre la Russie par Ukraine interposée. C'est dit et répété. Mais je crois qu'il ne faut jamais cesser de le dire et le répéter. Et l'Ukraine est en réalité dans cette affaire le bras armé de l'OTAN, en fait, puisque c'est l'OTAN qui n'existe que pour lutter contre la Russie, qui a survécu même après la chute du mur de Berlin et de l'URSS, et qui continuera à exister tant que l'OTAN n'existera plus ou la Russie n'existera plus. Parce qu'en fait, vu la haine d'un côté ou de l'autre, on ne voit pas comment il pourra en rester deux, parce que si d'un côté il y a de la puissance, il y aura toujours l'envie d'en découdre en fait. Et c'est ce qui est monstrueux dans l'époque qu'on vit. Et ce qui est magnifique en revanche, c'est que la Chine, la diplomatie chinoise, la diplomatie d'Arabie Saoudite, également beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis est extraordinairement encourageant. C'est-à-dire que j'ai plus d'optimisme bizarrement maintenant sur l'évolution de la guerre qu'avant. Puisque aux côtés de la Russie, le géant chinois s'est affirmé comme un partenaire plus que stratégique et lié. Tout le monde a vu la visite de Xi Jinping à Moscou et véritablement la force de la relation entre les deux pays. Et ça se traduit de plus en plus sur le terrain, au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Je pense que ça va se traduire en Afrique, ça va se traduire en Amérique du Sud. Et pour l'Europe, malheureusement, ça passera par le chaos. Et voilà, c'est très triste, mais c'est comme ça.
C'était Bertrand Scholler, analyste français. Il a commenté à notre micro l'épuisement pour Bruxelles des possibilités de sanctionner à nouveau la Russie. Il a donné ses analyses sur le conflit autour des importations de blé ukrainien et dressé les enjeux du prochain sommet de l'OTAN à Vilnius. Chers auditeurs et auditrices, Spoutnik Afrique rend dès à présent l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement aux commandes d'une nouvelle émission, Fidèle au poste. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.